Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien éco qui va être consacré cette semaine à la RSE dont on parle très souvent. Et pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Éric Chazeran. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle Catecon.
Tout à fait.
Exactement. Tout d'abord, on va peut-être placer le décor. Qu'est-ce que ça signifie, Catecon ?
Catecon, c'est un concept stoïcien, c'est un concept enraciné dans la philosophie antique et qui décrit l'action juste et responsable, juste dans sa fin et dans ses moyens, responsable dans sa fin et dans ses moyens, et qui fait attention notamment à ses conséquences sur son environnement immédiat, humain, animal et végétal.
Donc on n'a rien inventé.
On n'a rien inventé, non, on n'a rien inventé. Et c'est vrai que quand moi je me suis posé la question de la création de mon entreprise et du nom, je voulais un nom qui soit enraciné dans cette pensée humaine finalement qui est riche, et puis je voulais un nom qui signifie réellement quelque chose, qui raconte une histoire, et c'est un copain agrégé de philosophie qui me l'a trouvé. Voilà.
Et comme ça en plus vous avez le plaisir de l'expliquer, donc exactement. En plus c'est encore mieux. Les origines et la création de l'entreprise, en quelques mots.
C'est une entreprise qui remonte à 2020. Moi, je suis journaliste de formation. J'ai été passionné quand j'étais journaliste par le monde de l'entreprise, justement. J'adorais aller visiter des usines, j'adorais rencontrer des chefs d'entreprise, m'intéresser à leurs enjeux. Et quand j'ai quitté le métier du journalisme pour tout un tas de raisons, je me suis dit, j'ai envie de rester dans le monde de l'entreprise, j'ai envie de rester connecté à ce monde de l'entreprise-là, parce que je l'aime, parce que j'ai vécu à l'intérieur. Hein, une entreprise de presse est une entreprise, surtout dans la presse papier, là où j'ai passé la majeure partie de ma carrière. Et donc voilà, j'ai décidé petit à petit de me mettre au service de ces entreprises sur des enjeux que moi je maîtrisais, à savoir des enjeux de sens, des enjeux de vision, des enjeux de direction, et en jouant la carte vraiment de l'information, puisque avant de partir dans un cap RSE, il faut savoir d'où on part. Pour ça, il faut chercher l'information, il faut la synthétiser, il faut la restituer, la vulgariser. Et vous savez bien que quand on a été journaliste, c'est ce qu'on sait faire de mieux.
Tout le monde, c'est ce qu'on essaye.
C'est ce qu'on essaye.
C'est ce qu'on essaye de faire. Donc vous êtes tourné vers les TPE, PME, vous les accompagnez, c'est un peu le but.
Alors, on était tourné au départ vers les TPE, PME, on est en pleine bascule aujourd'hui, et on se tourne plutôt vers les PME, on garde la cible PME et les ETI. Les TPE, il y a des enjeux de temps et de dispo, de ressources qui sont compliqués aujourd'hui à adresser. On y reviendra, mais quand on aura réussi à faire quelque chose de très simple pour elles et très ajusté à leurs enjeux. Donc aujourd'hui, PME, ETI, industriel, TP et médico-social.
Et médico-social. Au-delà de... du nom original, effectivement, et originel, quelque part. Il y a une certaine philosophie que vous avez dans votre démarche.
Oui, alors déjà, nous, on vient du monde de l'entreprise. Je dis nous parce que j'ai un associé, Jean-Sébastien Cadix, qui a été responsable RSE chez Danone Eau pendant 5 ans dans les années 2010. On vient tous les deux du monde de l'entreprise. Donc, on n'est pas ces consultants qui ne connaissons pas le fonctionnement d'une boîte, même si on n'est pas expert métier. Et en fait, quand on adresse la RSE, on essaye d'avoir une approche systémique, holistique, c'est-à-dire de pas en faire un service de l'entreprise finalement, mais de l'intégrer réellement dans l'ADN de l'entreprise, d'en faire quelque chose qui fait partie de son identité, de sa culture, et on l'élève au niveau stratégique. Ça veut dire que finalement, on en fait une composante de la réussite du projet entrepreneurial. Et ça, c'est très important de le souligner, parce qu'une RSE qui nuit à l'entreprise ou qui ne sert pas sa rentabilité notamment, finalement, ce n'est pas de la RSE, puisqu'on est irresponsable dans la façon d'adresser ce sujet-là. Nous, on est vraiment là pour la réussite du projet, la réussite de l'entreprise à l'échelle de la stratégie. Et on est capable de déployer aussi quand même.
Oui, puisque toutes les semaines, on reçoit ici à l'entreprise des entreprises, grosso modo. L'une des grandes questions, l'une des grandes équations que les chefs d'entreprise n'arrivent pas à résoudre, c'est le profit et la RSE. Est-ce que vous êtes, j'imagine, confronté, c'est votre cœur de métier ?
C'est notre cœur de métier. Alors nous, on n'en fait pas un levier financier systématiquement. Mais en revanche, tout ce qu'on va mettre en place dans les entreprises va permettre de servir la rentabilité, donc pour une partie le profit, mais la rentabilité pour moi va aussi au-delà du profit, la rentabilité du projet, sa solidité dans le temps. Je vous donne un exemple. Une fois qu'on a passé la phase diagnostique, parce que là-dessus, un diag RSE, c'est comme un diag, sauf que c'est sur de la RSE, on va déployer quelques actions très concrètes. Là, je sors de chez un client où on a travaillé sur les déchets avec lui. Donc, on avait identifié une vraie problématique déchets, un poste de déchets qui lui coûtait 40 000 euros par an sur une PME qui fait 120 000 de résultats nets. C'est quand même
c'est un
gros poste.
Ouais, voilà.
Là, j'ai remis hier à ce client mon étude et puis mes préconisations. On va lui faire récupérer 60 à 70 000 euros.
Voilà. Énorme.
C'est énorme. Et tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a dit on va traiter les déchets de façon le plus responsable possible, donc à la fois dans une logique de traçabilité, de réemploi, de recyclage, mais également dans une logique économique, puisque dans certaines entreprises, un déchet, c'est de l'or.
C'est sûr. Dans ce panorama justement de l'économie en général, est-ce qu'il y a j'imagine, encore des réfractaires ou des gens qui ne savent pas comment appréhender les choses.
Alors, des réfractaires, peut-être qu'à titre personnel, oui, mais aujourd'hui, tous les chefs d'entreprise, je l'espère en tout cas, ont conscience que même s'ils ne sont pas convaincus, il faut y aller. Il faut y aller, pourquoi ? Parce que sinon, on risque le déréférencement, parce que la pression réglementaire est de plus en plus forte, parce que ça joue sur la marque employeur aussi. Il y a des attentes des collaborateurs qui sont majeures. Donc, il faut y aller. Donc, oui, moi, j'ai quelques chefs d'entreprise qui, au fond d'eux, sont un peu sceptiques sur certains enjeux liés à la RSE, mais c'est de plus en plus rare. En revanche, un des points que vous avez dit et qui est très important, c'est par où je commence. Je veux me lancer dans lancer une stratégie RSE. Comment je commence ? Et nous, c'est ça qu'on fait finalement. C'est on travaille avec les entreprises pour leur dire, on va identifier votre point de départ, celui qui s'inscrit le mieux dans votre dynamique, dans votre projet, dans vos objectifs de rentabilité, vos objectifs aussi financiers. Et on va déployer ça avec vous, une stratégie qui serve ça.
Alors, s'il n'y a plus beaucoup de réfractaires, est-ce qu'il y a, en revanche, des gens qui sont à l'avant-garde ?
Eh bien, alors, je vais citer un secteur où les gens vont me dire, non, c'est pas vrai, mais si, la finance. La finance, en tout cas, les investisseurs, les sociétés de gestion, les fonds qui déploient des véhicules d'investissement, des fonds d'investissement, eux, aujourd'hui, sont de plus en plus attentifs à ces questions-là. Nous, on travaille, on fait pas mal de due diligence, c'est un terme un peu technique. C'est un audit. Quand vous reprenez une boîte, par exemple, ou que vous investissez dans une boîte, bah, vous allez faire un audit juridique, un audit financier, un audit assurance, un audit risque. Aujourd'hui, il y a quasiment systématiquement, chez certains fonds, pas chez tous, un audit ESG, c'est le nom financier de la RSE, d'accord ? Et derrière ça, moi je l'ai vécu, on peut déployer des plans d'action pour les entreprises dans lesquelles ils investissent. Et ces entreprises-là vont gagner, vont être mieux valorisées parce qu'elles ont une stratégie RSE qui est enracinée dans leur projet d'entreprise, qui sert le projet d'entreprise et qui va bénéficier à la marque employeur, qui va permettre de faire baisser notamment le taux de turnover, d'augmenter le taux d'engagement des collaborateurs. Donc voilà, ça, c'est un des secteurs qui est en pointe. Et là, pour le coup, ça répond aussi à votre première question. J'ai beaucoup de gérants de fonds qui ne sont pas forcément convaincus eux-mêmes. Voilà. Mais ils y vont. Pourquoi est-ce qu'ils y vont ? Parce que le marché, parce que la réglementation, parce que quelque part, le sens de l'histoire veut qu'il faut y aller.
Il y a aussi des oubliés.
Oui.
Et c'est aussi pour ça que vous avez déménagé le siège de l'entreprise. Vous étiez sur Lyon et vous êtes à présent sur Villefranche, sur Saône.
Ouais, décision.
C'est original.
C'est une décision très originale. En général,
c'est l'inverse.
Peut-être que les gens pensent à faire l'inverse. Ouais, il y a des secteurs qui sont oubliés. Alors, ce n'est pas par secteur d'activité, mais c'est plus par typologie géographique.
D'accord.
Nous, je vous l'ai dit, on adresse tous les secteurs, mais particulièrement l'industrie, le TP, le médico-social et l'industrie. On a des pépites industrielles dans la région qui sont en périphérie des grandes zones urbaines. Comme elles sont en périphérie des grandes zones urbaines, elles ont des enjeux de territoire, elles ont des enjeux de marque employeur qui sont hyper forts et auxquels la RSE peut apporter une réponse. Et elles n'ont personne pour les aider à adresser ces enjeux, parce que j'ai très peu de confrères qui vont aux périphéries, voire qui vont au-delà des périphéries. Nous, on adore ça. Moi, je ne suis pas du tout un urbain, je suis un rural. Donc, on s'est dit, voilà, on va aller aux périphéries. Et on s'est dit, voilà, avoir un siège rue Franklin à Lyon et dire aux entreprises, on vit la même chose que vous, aux entreprises à Montrottier ou sur la plaine de la Saône. Voilà, il y avait un problème de crédibilité. En allant à Villefranche, on se rapproche de nos cibles, on se rapproche des entreprises qu'on a envie d'adresser. Parce que Villefranche n'est pas la campagne, hein, soyons très clairs, ça reste très urbain.
Très urbain, on est bien d'accord.
Voilà, mais c'est une super ville, hyper dynamique et qui est au cœur de tout un réseau industriel passionnant qu'on va essayer d'intégrer petit à petit.
On a commencé par un concept grec, on peut quasiment finir un peu aussi par de la philosophie. Le futur de la RSE, c'est-à-dire, on en parle tous les jours dans les médias mainstream, mais pas que. C'est vraiment ce qui va changer le monde, d'un point de vue business, à votre
Alors,
avis ?
Si on se met sous l'angle business, oui, ce qui va changer le monde, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Oui. Hein,
c'est pour ça que j'ai précisé.
Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même.
Exactement, tout à fait.
ça modifie en profondeur les modèles économiques et la façon qu'on a de faire du business, parce qu'on va intégrer d'autres indicateurs que des indicateurs purement chiffrés, purement financiers. En ce sens-là, oui. Donc ça, c'est hyper positif, parce qu'une entreprise, c'est une aventure humaine. Et une aventure humaine, son driver numéro un, ce n'est pas seulement l'impact financier, c'est pas seulement le bénéfice, le profit ou la rentabilité. Il y a aussi la relation, il y a aussi les projets, il y a aussi le fait de grandir, de gagner en compétences. Il y a un risque avec la RSE aujourd'hui, et moi, c'est mon chiffon rouge, et j'essaye d'en parler à chaque fois. Merci de me donner cette opportunité. Le risque principal, c'est de devenir quelque chose de très technique. C'est de devenir l'apanage d'experts.
C'est ça.
C'est de devenir quelque chose de administrativement très lourd, et on en prend le chemin, on en prend objectivement le chemin.
Vous avez raison de le souligner. Oui.
Voilà. Nous, on est dans un enjeu de simplification, et c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter d'ailleurs aux entreprises partenaires avec qui on bosse, c'est de dire, voilà, le demain, c'est vous qui pilotez, parce qu'on va essayer de vous permettre de trouver cet équilibre entre la partie administrative qui peut être compliquée, Il y a beaucoup de reporting à faire, il faut cocher des cases. Et en même temps, la partie opérationnelle qui doit être le plus simple possible, parce que sinon, ça ne marche pas.
Dernière question, elle est traditionnelle depuis le début de l'année. C'est une actualité, Éric Chazeran, qui vous a marqué récemment dans l'actualité nationale ou régionale.
Alors, est-ce que début janvier, c'est récent ou pas?
Oui, c'est récent. Parce c'est que encore récent.
J'étais en presse quotidienne, donc voilà, ça a été récent, ce qui avait moins d'un quart d'heure. Non, là, c'est une actualité qui, allez, on va dire 2024, dans mon secteur à moi, c'est l'application en droit français de la CSRD. La Corporate Sustainability Reporting Directive, je ne suis pas très à l'aise avec la terminologie anglaise, qui est finalement la nouvelle obligation réglementaire de déclaration de performance extra-financière. Avant, seules les entreprises cotées avaient l'obligation de faire cette DPEF, déclaration de performance extra-financière. Mmh. Aujourd'hui, c'est en train de se généraliser et demain, l'ensemble, enfin, vous avez plus de 50 collaborateurs, vous devrez faire cette déclaration. Mmh. Et en fait, c'est un moment important parce qu'il y a le plus et le moins que je vous ai décrit tout à l'heure.
C'est ça.
Le plus qui est vraiment positif, c'est que finalement, on arrive dans un nouveau modèle et ça va obliger cette directive, les entreprises à changer de modèle. Mmh. Le moins, c'est que c'est très, très lourd administrativement.
Comme souvent.
Comme souvent. L'administration européenne, finalement, est très française sur certains aspects.
On les a contaminés.
Voilà, on les a un peu contaminés. Mmh. Et il y a ce risque un peu de techno, mais ce qui est important, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont encore sous les seuils d'accord, de la CSRD, mais par capillarité, elles sont impliquées. Elles sont concernées dès maintenant. Voilà, parce que un grand groupe qui demain doit mesurer son empreinte carbone en intégrant, comme la CSRD lui demande, l'ensemble de sa chaîne de valeur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à l'ensemble de la chaîne de valeur de calculer l'empreinte carbone. Ceux qui ne sont pas capables de répondre à ces exigences-là seront juste déréférencés, ce qui serait dommage. Ouais, donc voilà, aujourd'hui, même le petit artisan de 5-6 personnes parfois peut être concerné de façon indirecte par la CSRD.
Exactement.
Et on est là pour les accompagner tous.
Merci Éric Chazeran.
Merci pour votre accueil.
Merci à vous, le plaisir partagé. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme toujours, vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et ainsi que sur notre chaîne YouTube. D'ici là, très belle fin de journée à l'écoute de Lyon Entreprise. À bientôt.